Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. L'hôpital public est en crise, que ce soit en termes de financement ou d'organisation. Urgences hospitalières saturées, réduction des effectifs, suppression des activités non rentables, remise en cause des accords sur le temps de travail, entre autres sur les 35 heures. Le personnel soignant est épuisé, découragé, avec un taux assez élevé de burn-out. Cette dégradation des conditions de travail entraîne-t-elle aussi une dégradation des soins? En France, les dépenses hospitalières représentent plus de 46% de la consommation globale de soins. C'est pourquoi le gouvernement souhaite faire 3 milliards d'économies dans les hôpitaux d'ici 2017. Mais est-ce possible, justement, sans toucher à la qualité des soins? Face à ces difficultés, plusieurs professeurs de renom quittent les CHU parisiens pour le secteur privé et ceux qui restent viennent de lancer un appel pour sortir l'hôpital public de la crise. On en parle avec Gérard Vincent, qui est délégué général de la Fédération hospitalière de France, le professeur André Grimaldi, diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Michel Rosenblatt, qui est secrétaire général du syndicat des cadres de direction médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés, et également directeur d'hôpital aux hospices civils de Lyon, et le docteur Julie Pelletier, néphrologue à l'hôpital Tenon à Paris, impliquée dans le mouvement de défense de l'hôpital public et membre de la commission médicale d'établissement. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Bonjour à tous les quatre et vraiment merci d'être là pour ce débat sur la crise dans l'hôpital public. Professeur André Grimaldi, j'ai envie de vous donner la parole tout de suite pour prendre un exemple concret. Dans votre service de diabétologie, finalement, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Alors, mon service, c'est mon ancien service. Hein. Il y a une nouvelle chef de service.
Mais vous y travaillez encore.
J'y travaille encore. J'y travaille encore. Écoutez, nous, on avait un projet médical de regrouper 5 services d'endocrinologie et métabolisme, l'obésité, le cholestérol, le diabète, ensemble dans un grand département. Et pour pas dire que des choses négatives, il y a eu un projet de construction d'un grand bâtiment tout neuf. Donc quand on le visite, tout le monde dit ah, il est beau votre bâtiment.
Mais est-ce que ça a amélioré les choses?
Voilà. Mais à cette occasion, par contre, on a vu les infirmières, les aides-soignantes, les hospitaliers se mettre plutôt à pleurer. C'est parce que voilà, on restructure sur un projet médical, mais on a supprimé beaucoup d'aides-soignantes. Donc j'ai vu les infirmières qui faisaient les lits, ce qui n'était pas exactement leur tâche. Il y avait des infirmières qui étaient d'accord pour venir le dimanche, mais jusqu'à 3 dimanches de suite, ça n'allait pas quand même. J'ai vu des gens qui étaient dans des unités, parce que nous avons des unités pour soigner le pied diabétique, des unités pour apprendre à manier l'insuline et à se soigner, et des infirmières obligées de changer de poste d'un jour sur l'autre. Quand vous changez de poste un jour sur l'autre, vous connaissez pas les malades, vous n'êtes plus dans la continuité du soin, c'est la qualité de votre travail qui se dégrade. Bon, des secrétaires.
La polyvalence.
Voilà, vous allez vous passer, et puis on vous dit, vous êtes dans un département, alors vous êtes au cinquième, demain vous serez au quatrième. Bon, donc vous êtes un pion qu'on balade. Vous êtes plus dans une équipe, hein. Ouais, j'ai vu les secrétaires non remplacés. Alors on leur explique en permanence qu'elles peuvent faire le travail des autres, que c'est pas la peine de remplacer. Donc on fait des audits, audits sur audits, elles se sentent, et alors on dit, ça a été jusqu'à, vous n'avez pas à répondre au téléphone.
Bon, difficile
vous êtes
pour prendre
la parole, vous n'avez pas à répondre au téléphone. Bon. Alors, bref, vous mettez situation, les gens ont sentiment que leurs conditions de travail, leur qualité de travail se dégrade. Il y a 4 infirmières chez nous, que, à l'époque où j'étais un service donc isolé, qui étaient consacrées aux soins, qui voyaient des malades, ce qu'on appelle des infirmières cliniciennes, qui téléphonaient aux patients, qui les voyaient en consultation, qui n'étaient plus seulement des infirmières qui font des prises de sang. Bon. Ces infirmières, maintenant, elles font aussi les tâches de secrétariat. Elles prennent les rendez-vous, elles organisent tout. Bon, donc elles ont un sentiment encore de déqualification. Et ça se traduit comment? Le taux de demande de départ de ce bâtiment tout neuf a augmenté. Bon, les gens disent, moi, je veux pas rester. Mmh. Alors, c'est paradoxal. On se dit, les chambres sont magnifiques, on a mis quelque chose de très beau, et l'augmentation du nombre de gens qui demandent à quitter le bâtiment. Et pour former une infirmière clinicienne, c'est 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. C'est pas, il s'agit pas de suivre un cours seulement, hein. Donc ça, voilà. Alors ça nous rend dans ce paradoxe. Bon, les choses.
Évoluent. On va donner la parole, tout à l'heure, voilà, d'ailleurs, à une infirmière.
Voilà, sans dramatiser non plus. Si vous me demandez est-ce qu'on est bien soigné quand même, est-ce que oui, les gens font des efforts, les gens sont quand même bien soignés, mais c'est au prix de ce que je vis, moi, un peu de l'extérieur maintenant, comme une souffrance.
Oui. Julie Pelletier, vous retrouvez dans ce que vient de dire le professeur Grimaldi? Quelles sont, vous, les difficultés que vous rencontrez au quotidien à l'hôpital Tenon?
Je dirais à peu près les mêmes. Alors, un exemple qui se rapproche beaucoup, ça fait 2 ou 3 ans qu'on a monté une activité d'éducation thérapeutique pour les patients transplantés rénaux.
Ce qui est absolument indispensable,
ce qui est indispensable, ce qui est pour le coup, à tout à fait juste titre, tout à fait demandé par les tutelles, ce qui est un très beau programme, ce qui est effectivement quelque chose de très à la fois utile et gratifiant pour les infirmières, puisqu'elles se retrouvent donc dans une relation complètement individualisée avec les patients, d'accompagnement des patients avec leur pathologie, pour justement renforcer leurs compétences d'adaptation et intégrer leur pathologie dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est un concept de la médecine qui est quand même passionnant, c'est de se dire le patient n'est plus un malade, mais quelqu'un qui gère une pathologie en plus de sa vie quotidienne. Bon, bah ça, on a monté ce projet, donc on a réussi à obtenir un mi-temps, simplement, pour monter ce projet. Une infirmière de consultation qui était extrêmement motivée, qui était sur le départ et qui a dit « je vais rester parce que ça me passionne ». Et bah, elle a passé 2 ans, en fait, à exercer maximum un quart de temps, puisque le reste de temps, elle remplaçait les collègues absentes, voire parfois, effectivement, l'aide-soignant qui était à l'accueil pour prendre les rendez-vous en consultation.
Bon. Or, cette prévention, si on la fait bien, ça fait justement faire des économies à long terme.
Mais je pense, parce que ça, c'est ce qu'on est en train d'évaluer, mais je suis convaincue que ça diminue le nombre de jours d'hospitalisation pour des complications des patients transplantés. On leur dit, par exemple, vous avez de la fièvre, vous venez tout de suite, ce qui évite qu'ils arrivent effectivement en pleine phase de choc septique ou de septicémie, qui pourraient causer des séjours en réanimation, donc avec des hospitalisations plus prolongées, un retour en dialyse qui est beaucoup plus coûteux que la greffe, etc., etc. Donc des exemples
c'est des
comme
petites
ça,
choses comme ça tout le temps.
Il y a, en fait, comme dit André, je crois que c'est le soin il est préservé. On n'a pas touché aux effectifs médicaux. On essaye, mais c'est difficile. Il y a encore quand même un contre-pouvoir qui fait que bon, pour l'instant, les médecins sont là, les infirmières sont là. On peut pas supprimer les postes d'infirmiers comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On supprime tous les postes logistiques, j'ai envie de dire, mais qui sont fondamentaux, qui créent du lien, qui créent effectivement la notion d'équipe. Vous mettez quelqu'un à l'accueil dans un service, c'est l'âme du service. C'est la personne qui va accueillir les patients, les orienter vers leur chambre d'hospitalisation, expliquer le déroulé de leur séjour. Voilà.
Et ça, il n'y a plus la personne à l'accueil.
Alors, cette personne-là n'existe plus officiellement, puisque c'était ce qu'on appelait le poste de secrétaire hospitalier. Et ce poste n'existe plus, n'est plus calculé dans les effectifs. Donc, que font les équipes? Elles font le choix de prendre un aide-soignant dans leurs effectifs d'aide-soignants et les mettre à ce poste. Mais cette personne, elle est centrale.
Qui fait ce travail-là. Michel Rosenblatt, ce que vient de raconter à la fois le docteur Pelletier et le professeur Grimaldi, est-ce que ça correspond à ce que vous voyez en province? Et vous, en tant que directeur d'hôpital, est-ce que ça rejoint votre point de vue sur la situation?
Ce sont deux exemples parmi beaucoup d'autres et qui traduisent effectivement un phénomène général. Ce phénomène général, c'est une accentuation de la tension. L'idée générale, c'est que l'augmentation de la tension économique et financière sur l'hôpital doit pousser l'hôpital à s'organiser mieux, à améliorer son efficacité. Et ce dont on se rend compte, c'est d'abord que c'est souvent le cas, et que paradoxalement, et c'est vraiment un paradoxe, ces tensions aboutissent aussi à désorganiser l'hôpital. Parce que c'est une organisation complexe, il y a beaucoup de monde, il y a peu d'activités humaines qui ont autant de métiers différents, de responsabilités différentes et de maillons dans la chaîne, ce qui fait que c'est une situation qui est toujours fragile, par définition fragile, parce que il faut beaucoup de compétences qui travaillent ensemble, une organisation fine, etc.
Mais qui est responsable de ces choix? Est-ce que c'est vous en tant que directeur d'hôpital? Les deux exemples qui ont été donnés, l'infirmière qui finalement est polyvalente, peut aller remplacer n'importe où, un jour elle est au quatrième, un jour au cinquième, ou bien l'exemple de l'infirmière pas remplacée, on n'arrive pas à faire de la prévention, plus de personnes à l'accueil. Qui est responsable de ça? C'est vous? Non, mais je veux dire, c'est vous, directeur d'hôpital, ou
c'est
une décision plus large que ça?
C'est un ensemble, et c'est encore une fois un ensemble complexe, des pouvoirs publics jusqu'à l'usager, en passant par les professionnels, les élus, et tout le contexte qui accompagne cette organisation complexe. De fait, les responsabilités directes que vous évoquez sont diluées. Et de fait, chacun n'a qu'un morceau de la décision. Le responsable d'établissement, l'équipe de direction, le président de la commission médicale d'établissement et les responsables médicaux de l'établissement essayent de tirer ensemble dans le même sens pour adapter le système de telle sorte que, malgré les économies réalisées, il reste performant et répond à ses missions. Et en même temps, nous sommes dans un environnement en bouleversement continu, en transformation permanente. Il n'y a pas une absence de réforme et soudain, il faudrait réformer. Il y a un mouvement et un flux continu de réformes qui, quels que soient les gouvernants d'ailleurs, avec grosso modo la même tendance.
Et si je comprends ce que vous dites, c'est que vous êtes simplement en train d'appliquer ce que le gouvernement vous demande, vous avez peu de marge de manœuvre, vous en tant que directeur.
Effectivement, les établissements reçoivent des injonctions des agences régionales de santé qui les tiennent du ministère et du gouvernement. En même temps, le gouvernement est pris dans la contradiction de devoir limiter l'évolution des dépenses, ce qui correspond donc à une restriction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et à l'intérieur de cette grande enveloppe à répartir entre les différents acteurs de soins que sont l'hôpital public, les cliniques, la médecine de ville et les autres professionnels de santé. C'est évidemment ce sont des arbitrages complexes. Chacun estimant qu'il n'y en a pas assez, et jusqu'à un certain point, c'est vrai. On pourrait,
faire mieux.
Par définition, nous sommes dans un système économique, donc avec des ressources contraintes, face à une demande qui potentiellement pourrait être très très large. Je partage l'avis des médecins qui viennent de s'exprimer. La qualité des soins est globalement assurée, et c'est heureux. Ensuite, nous avons un problème de limite. Jusqu'où peut-on, et c'est le débat, économiser ou organiser mieux de telle sorte
jusqu'où ça va.
Les coûts budgétaires et les économies demandées, si je peux me permettre de ce clin d'œil, c'est un peu comme l'épreuve d'amour, ça ne suffit jamais.
Gérard Vincent, vous êtes délégué général de la Fédération hospitalière de France. Une réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit?
Non, je ne sais pas ce qui a été dit, mais la contrainte, elle est forte depuis quelques années. Elle va croître dans les années qui viennent. Enfin, en tout cas, si le gouvernement tient ce cap de réduction de la croissance des dépenses hospitalières, c'est-à-dire des crédits donnés par l'assurance maladie sur décision du gouvernement qui progressent moins vite que la croissance naturelle de nos dépenses, ça on s'est calculé, donc il y aura forcément probablement de plus en plus de problèmes. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, disent on peut faire des économies à l'hôpital parce que l'hôpital en fait trop. Il n'y a pas de raison que l'hôpital fasse tout ça. Il fait des choses aux urgences, il y a beaucoup trop d'urgences.
Il y a des choses qui devraient être faites par les médecins de ville. Mais de fait, ce n'est pas fait.
Et en fait, on est assez d'accord. Il y a des choses que l'hôpital ne pourrait ne pas faire, qui seraient aussi bien faites par des praticiens de ville, par des médecins de ville. Le problème, c'est que le système de santé est insuffisamment régulé et piloté, et que si l'hôpital n'est pas là pour assurer, c'est-à-dire les défaillances, entre guillemets, de la médecine de ville, il y a des malades qui sont plus soignés. Et donc, on ne peut pas reprocher à l'hôpital d'en faire de plus en plus. Heureusement qu'il est là.
C'est ça. C'est difficile de parler de l'hôpital public sans parler de l'ensemble de la chaîne soins. Je propose d'écouter le point de vue d'une infirmière. Nathalie Depoire est présidente de la Coordination Nationale Infirmière. Elle a travaillé dans un service de réanimation et de cardiologie à l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Hier, elle était auditionnée au Sénat avec d'autres syndicats d'infirmières, dans le cadre du projet de loi santé porté par Marisol Touraine. Nathalie Depoire explique au micro de Pauline Mocor les difficultés que les infirmières rencontrent au quotidien.
Le fait qu'on soit de plus en plus dans une volonté économique de principe de rentabilité, on a aussi une volonté de limiter finalement notre action à ce qui nous est prescrit, c'est-à-dire quelque part nous transformer hélas en machine à actes. Là où toute infirmière a pourtant un rôle très important et des missions en termes de prévention et d'éducation. Or, souvent, même si certains établissements ont mis en place des postes d'infirmières dédiés à l'éducation thérapeutique, pour des problèmes de gestion budgétaire et d'effectifs réduits, dès qu'il y a une absence, on ne remplace pas l'infirmière qui devait faire l'éducation et on la remet dans son service d'origine avec plutôt les actes, les urgences. En fait, on agit par priorité.
Dans votre service, il y a moins d'infirmières qu'il y a quelques années?
Alors c'est très compliqué parce que les gestionnaires vont vous dire qu'il n'y a pas moins d'infirmières parce que les effectifs rémunérés vont peut-être être soit stables, soit augmentés. Pour autant, dans les hôpitaux, on a à force d'être sur un système de flux tendu, de ne pas vraiment remplacer toutes les absences et demander plus au personnel, un épuisement et donc beaucoup d'absences. Et les absences ne sont pas toutes remplacées. Des absences maladie, des congés maternité. Et des retours de congés maternité à 80% alors que le professionnel au départ, la professionnelle était à 100%. Donc ça fait à chaque fois des petits 20% qui se grignotent dans les équipes. Et ces maladies qui ne sont pas remplacées, ça vient surajouter. Et donc on n'est pas forcément dans ce qu'on voudrait faire au quotidien. Par exemple, vous injectez une insuline, et bien il y a une éducation thérapeutique qui va avec pour le diabétique. Pour des anticoagulants, il y a aussi tout un rôle d'éducation et ça, on nous donne moins le temps de le faire.
Ça provoque du stress chez vous ?
Ça provoque du stress, ça provoque une forme de souffrance parce que vous rentrez à la maison avec le sentiment d'avoir pas répondu à tout ce que vous deviez répondre, un sentiment d'insatisfaction, d'un travail mal fait.
En termes de management, on vous demande d'être de plus en plus flexible, de fragmenter de plus en plus vos tâches. Comment ça se traduit, ça ?
Mais en termes de management, on a tendance à considérer l'infirmière avec un socle de formation initiale assez polyvalent. Donc, on pense que quand il y a un problème d'absence, une infirmière égale une infirmière. On passe allègrement d'un exercice en service de médecine à aller remplacer en chirurgie, du jour au lendemain, dans les deux sens, alors que chaque exercice a ses spécificités. et qu'il faut quand même un temps d'accompagnement, connaître le service, connaître les protocoles du service. Et nous, on estime qu'il y a un risque d'erreur majeur.
Vous avez des collègues qui sont en réelle souffrance ?
Oui, oui, il y a des collègues qui craquent. Il y a des collègues qui sont suivis en service de santé au travail avec un suivi psychologique. Il y a des collègues en dépression qui sont en arrêt de travail liés à cette insatisfaction parce qu'elles ont perdu pied, parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans ce à quoi elles se sont engagées. Et puis, ça a une conséquence sur les équipes en elles-mêmes. On sent un climat de plus en plus tendu, des conflits, des situations qui vont jusqu'à une violence verbale, voire plus, dans des équipes. Ça interpelle quand même.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons de l'hôpital public français. Docteur Julie Pelletier, j'avais envie de vous faire réagir à ce témoignage de cette infirmière qui parle beaucoup d'épuisement. À vous entendre, ça correspond exactement à ce qu'elle vient de dire, à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous et le professeur Grimaldi. Est-ce que c'est pas finalement les infirmières qui payent le plus le prix de cette réforme de l'hôpital en ce moment, qui en payent le plus les pots cassés?
Sûrement, je saurais pas mettre un grade. Je pense que tout le monde en paye le prix. Mais effectivement, le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est en résonance complète avec ce qu'on ressent tous les jours, avec l'ensemble des équipes. Oui, effectivement, une infirmière, c'est quelqu'un d'unique, c'est quelqu'un qui a une compétence unique, qui effectivement développe sa compétence au sein de la spécialité dans laquelle elle travaille. Et effectivement, ça, c'est complètement nié aujourd'hui. Hein.
Mais
c'est
bon. Mais avec une perte de sens, du coup.
Ah bah, avec une perte de sens.
Mais que vous avez moins, vous, les médecins.
Mais si. Aussi, parce qu'en fait, on travaille avec eux, on travaille avec les infirmiers. Nous, si on est tout seul sur notre îlot, on ne fait plus rien. Je veux dire, on le sent très bien. Je veux dire, la compétence, la qualité de la prise en charge des patients, c'est vraiment un travail d'équipe. Et aujourd'hui, ce travail d'équipe, il est vraiment mis à mal. Il n'y a pas de temps collectif, beaucoup moins qu'avant, pour justement discuter. Le petit-déj, le matin, les gens, ils ne sont pas en train de discuter de droite et gauche, ils discutent des patients. La discussion, la prise en charge transversale avec le kiné du service, avec l'aide-soignante du service, l'infirmière, l'assistante sociale, la psychologue, tout ça, c'est devenu...
C'est juste indispensable.
C'est indispensable. Enfin, nous, on le fait avec des petits bouts, des petites choses, mais le kiné, c'est le kiné du pool, c'est pas toujours le même. Régulièrement, ils se découragent et ils partent. Donc, c'est des personnes qui restent travailler un an, deux ans, puis qui s'en vont. Plus personne n'envisage de rester à long terme dans un service et de développer ses compétences, parce qu'il y a un moment... Quand les infirmières, elles deviennent juste excellentes, dans un service d'urgence néphrologique, on fait de la dialyse en aiguë, il y a de l'épuration extra-rénale, donc il y a une
c'est complexe, c'est technique.
Voilà, il y a des compétences très techniques, très complexes. Quand elles développent ça et qu'elles ont fini de le développer, qu'elles aimeraient être infirmières référentes, pareil, former les jeunes qui arrivent, on leur propose pas de postes valorisés pour ça, et on n'arrive pas à garder ces personnes-là au bout de 4-5 ans, elles s'en vont, c'est des jeunes qui arrivent. Alors, en soi, c'est très bien, mais... Pourquoi pas? Mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une transmission qui se fasse, et il faut qu'il y ait quand même ce sens de l'équipe qui persiste, quoi.
Professeur Grimaldi, je vous ai vu prendre plein de notes pendant ce témoignage. J'imagine que vous avez des choses à dire.
Ah oui, non, je suis d'accord avec vous. C'est les infirmières qui sont en première ligne parce que l'activité des hôpitaux n'a cessé d'augmenter. Y compris poussée par la tarification de l'activité, qui, comme son nom l'indique, dit fait de l'activité.
Puisque c'est ça qui va faire rentrer de l'argent dans l'hôpital.
Les durées de séjour des patients ont été de plus en plus courtes. Le personnel médical a été augmenté en nombre. Dans notre vécu, pas celui des infirmières. Donc, celles qui ont vu leur temps de travail accéléré, ce sont les infirmières. J'ajoute les secrétaires, qui sont un personnel sous-estimé dans l'hôpital, mais qui reçoivent les coups de téléphone, qui organisent, qui répondent aux patients, qui font les courriers, donc qui sont le lien avec l'extérieur. Hein? Alors là, on pense que l'informatique peut permettre même de supprimer, comme on est en train de le faire à l'hôpital Saint-Joseph. Et c'est les internes et les médecins qui vont passer le temps à faire les comptes rendus, les lettres qui arriveront ou arriveront pas, ou seront lisibles ou seront pas lisibles. Donc on rentre dans une machine. Alors tout ça vient pas de n'importe où. Elle vient de l'idée que l'hôpital est une entreprise comme les autres. Ça a été dit, répété dans les années 2000 par plein de gens, plein d'autorités. On s'est dit, on va faire marcher l'hôpital comme une entreprise. Ça ne peut pas marcher.
C'est pas une entreprise. On y reviendra si vous voulez bien. Alors, je suis désolée, je vous coupe la parole, professeur Grimaldi. On va se retrouver dans 3 minutes, juste après les informations. On reviendra sur cette question de la T2A, de la tarification à l'acte, sur la question du déficit des hôpitaux publics. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés que traverse l'hôpital public avec le professeur André Grimaldi, qui est diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Gérard Vincent, qui est délégué général de la Fédération hospitalière de France, Michel Rosenblatt, qui est secrétaire général du 5AS CFDT, et le docteur Julie Pelletier, néphrologue à l'hôpital Tenon à Paris et qui est impliquée dans le mouvement de défense de l'hôpital public. Professeur Grimaldi, juste avant les informations, vous dénonciez l'hôpital entreprise en disant « l'hôpital, c'est pas une entreprise classique ».
Oui, parce que le débat à l'époque était c'est une entreprise comme les autres, disait Jean de Cavazdoué, ancien directeur des hôpitaux. On cherche à vendre, disait-il. Il faut relire son que sais-je sur l'hôpital public. On cherche à vendre. Alors non, à l'hôpital, on ne cherche pas à vendre. Ça, c'est fondamental. Et vous avez entendu dans le reportage de l'infirmière, elle dit « on est condamné à la rentabilité ». Ça, c'est contradictoire avec l'idée de ce que c'est un service public. Nous sommes condamnés, nous, à l'efficience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit faire le juste soin pour le malade, tout ce qui est nécessaire pour lui, au moindre coût pour la collectivité. Nous n'avons pas le droit au gaspillage. Mais nous ne cherchons pas à être rentables, c'est-à-dire à vendre des choses qui sont pas utiles, mais qui rapportent de l'argent. Or, maintenant, on s'est mis dans ça. On s'est mis à dire, le pied diabétique complexe et tout, ça c'est pas rentable. Mais par contre, la chirurgie de l'obésité, c'est très rentable. Alors vous voyez partout ce que font les cliniques commerciales. Les cliniques commerciales, par leur statut, elles doivent être rentables. Donc elles cherchent les créneaux rentables. Elles n'ont pas la même activité de l'hôpital. Le canal carpien, on peut le faire en série,
ça veut dire que nous,
c'est rentable.
Tout ce qui est prévention, qui n'est pas rentable à court terme, on le fait plus.
Exactement, ça veut dire que ça va passer au deuxième plan. L'éducation thérapeutique, les quatre infirmières dont je parlais de mon service, qui voient des malades, il n'y a pas de tarif pour elles. Elles sont pas rentables par rapport à une infirmière qui va être dans des actes techniques avec un chirurgien. Donc c'est très menacé.
Et finalement, l'amputation du diabétique est plus rentable pour l'hôpital.
Absolument. Ça c'est clair que la prévention, la complexité... c'est pas rentable. Alors, inversement, vous diriez, mais ça suffit de changer les tarifs. C'est ce qui s'est fait pour les soins palliatifs. Les soins palliatifs, la fin de vie, c'était pas rentable. La mort était pas rentable. Donc, on faisait sortir effectivement les mourants, on les reprenait, etc. Alors, on a changé les tarifs, et maintenant, la mort est devenue rentable. Mais enfin, ça reste toujours un peu absurde d'expliquer que la mort est rentable. Et que nous sommes heureux d'avoir des soins palliatifs.
Je voudrais faire réagir, Gérard Vincent, sur toutes ces questions-là, et puis sur la déficit de l'hôpital public. D'abord, l'hôpital, pour vous, vous dites quand même que c'est une entreprise.
Oui, mais comme l'a dit André Grimaldi, c'est pas une entreprise comme les autres. Je suis d'accord sur cette définition. Mais c'est pas l'administration. Il faut surtout pas que l'hôpital devienne une administration. Moi qui dirigeais une direction du ministère de la Santé il y a quelques années, je peux vous dire que si on gérait les hôpitaux comme on gère une administration, il y a longtemps que les malades ne seraient plus soignés.
On est d'accord,
mais on dit la même chose de manière un peu différente. Entreprendre, c'est pas un vilain mot. Pas un gros mot, l'entreprendre.
L'hôpital français coûte-t-il trop cher? En 2014, l'hôpital public était encore en déficit.
Il devrait pas l'être. Le bien public devrait globalement être à l'équilibre. Tout simplement parce que les pouvoirs publics, disons le ministère de la Santé, mais sous l'injonction de Bercy, des finances probablement, et même de plus haut, a décidé de ne pas débloquer une partie des crédits qui avaient été gelés en début d'exercice. C'est-à-dire que chaque année, le gouvernement propose au Parlement de voter une augmentation d'enveloppe pour les hôpitaux et les cliniques. Et en début d'exercice, le gouvernement, on le comprend, garde du poire pour la soif en disant si jamais ça dérape, on aura un peu de l'argent sous le pied. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? On n'a pas dérapé, l'activité a été conforme à les prévisions, et pour autant, le gouvernement n'a pas dégelé les crédits qui auraient dû être dégelés, qui avaient été votés par le Parlement.
C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital public était à l'équilibre?
Il était à l'équilibre. On serait à l'équilibre globalement parlant. Il y a des hôpitaux qui seraient en déficit, d'autres qui seraient en excédent, c'est-à-dire qui auraient fait un peu de bénéfice.
L'un compense l'autre.
Mais globalement, le système hospitalier public devrait être à l'équilibre. Il n'est pas d'ailleurs, la Cour des comptes l'a dit hier, elle a dit effectivement, si les hôpitaux avaient reçu ce qu'on leur avait promis en début d'exercice, ils seraient à l'équilibre.
Mais quel est cet argent qu'on leur avait promis? C'est sur quel point? Sur justement des points vraiment de service public, de public en grande précarité
Alors, un hôpital, il est financé à la fois par des tarifs, la fameuse tarification d'activité, qui représente plus de 80% des recettes aujourd'hui. Et puis, il y a, en gros, en moyenne, alors ça dépend des hôpitaux, mais 18% d'enveloppe de dotation globale pour financer la mission d'intérêt général.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là?
Et derrière, il y a d'abord tout le fonctionnement des SAMU et des SMUR, que tous les Français connaissent. Il y a l'enseignement et la recherche. Mais il y a aussi les missions de prévention, d'éducation, qui ne peuvent pas être financées, comme vient de le rappeler le professeur Grimaldi, par des tarifs et par conséquent qui sont financés autrement. Et donc cette enveloppe, on peut pas dire qu'elle n'est pas augmentée, qu'elle n'est pas augmentée dans les années précédentes. Elle a d'ailleurs plus augmenté que les tarifs. C'est les tarifs qui ont baissé. Les tarifs ont baissé pour des raisons qui sont peut-être un peu difficiles d'expliquer. L'enveloppe globale des hôpitaux a augmenté, en gros, de 2,5% par an jusqu'à présent. Elle est toujours, cette année, à 2% pour le moment, un peu en dessus. Et elle nous annonce 1,75% pour 2016 et 2017. Donc ça va être très, très dur. Parce que la croissance naturelle de nos charges, c'est pas nous qui le disons, c'est Bercy, donc c'est le ministère des Finances. On peut les croire.
Elle est due à quoi, votre rapport?
L'an dernier, c'était 3,6% l'augmentation naturelle des charges à effectif constant. Sans recruter de personnel.
C'est dû à quoi?
C'est dû en partie au fait qu'il y a des protocoles salariaux pour les salariés qui arrivent enfin, donc qui pèsent moins qu'avant, mais qui pèsent toujours. Le coût du pétrole était très élevé, donc ça a une incidence énorme. Alors, cette année, c'est moins le cas, Dieu merci. Mais on ne sait pas. Imaginez que l'an prochain, le tendanciel de croissance de nos charges, de nos dépenses à effectif constant, repasse au-dessus de la barre des 3%, avec une recette globale pour les hôpitaux qui va de 1,75%, ça va être terrible.
Ça va être de nouveau déficit. Et ces 3 milliards d'économies prévues d'ici 2017, mais c'est faisable ou c'est...
Alors pour l'instant, il faut quand même rendre hommage aux hôpitaux. Alors avec les inconvénients qu'on a soulignés tout à l'heure, les hôpitaux ont tenu, puisque le déficit des hôpitaux, c'est 0,3% de leur budget. Si le déficit de la France était à ce niveau-là, on serait tous heureux, notamment en tant que contribuable. Donc c'est pas un bateau ivre, l'hôpital public. Mais ça crée des tensions très fortes parce que les gestionnaires, les présidents de CME qui sont aussi comptables, entre guillemets, de la bonne marche financière de l'établissement, ils prennent des décisions qui ont pour effet, notamment, de supprimer des emplois, quoi qu'en dise le gouvernement. Le gouvernement nous dit, on a créé des emplois les années précédentes. C'est pas vrai. Alors, il y a des chiffres officiels qui sont publiés, on dit, on crée des emplois. Chaque fois qu'on interroge un chef de service ou une directrice de soins ou une infirmière,
on a plutôt supprimé des emplois qu'autre chose.
Alors, je sais pas où sont les créations, en tout cas, pas chez nous.
Mais justement, ces 3 milliards d'économies, c'est faisable? C'est pas faisable?
Jusqu'à présent, ça a été faisable. La preuve, c'est qu'on devrait être à l'équilibre. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Moi, je dis que ça va devenir de plus en plus difficile, sauf à prendre des mesures drastiques, mais qui risquent un jour de dégrader la qualité des soins. C'est des suppressions d'emplois. C'est-à-dire ne pas remplacer ceux qui partent, ou une partie de ceux qui partent. Et ça, là, on risque d'entrer dans une période qui sera bien plus dure que celle qu'on connaît aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, droite ou gauche, se rendent compte que l'hôpital public, c'est pas un service public comme un autre. Et que ça a un rôle d'amortisseur de crise, que ça supplée les carences ou les insuffisances ou l'absence d'autres professionnels, notamment de ville, et qu'il faut absolument compter sur l'hôpital public. C'est d'ailleurs le service public préféré des Français, c'est pas par hasard.
Docteur Julie Pelletier, on n'arrête pas de dire que les patients, pour l'instant, ne payent pas les pots cassés de cette réforme de l'hôpital public. Mais est-ce que c'est vraiment vrai?
Disons que ce qu'on disait tout à l'heure, quand on dit que la qualité des soins est préservée, c'est que les urgences vitales restent bien soignées, bien prises en charge. Je crois qu'il n'y a pas plus de retard pour ça. Mais par contre, les patients chroniques qui sont bien rompus à l'hôpital, ils voient ce qui se passe, ils voient bien, c'est plus comme avant, ils sont plus accueillis comme avant. On les balade d'un service à l'autre, on les balade d'une caisse à l'autre, etc. Ils arrivent, ils voient des personnes qu'ils connaissent plus, et ils disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment à l'hôpital? C'est pas comme avant.
Donc il faut bien une différence. Professeur Grimaldi?
Oui, parce que c'est... La qualité des soins se dégrade. On dit globalement se dégrade pas. Mais aujourd'hui, c'est très banal que si vous devez être opéré à l'hôpital pour une urgence, une fracture, on vous dit, c'est pas grave, une fracture, vous avez 75 ans, une fracture de 80 ans, une fracture du col du fémur. Alors vous allez être opéré cet après-midi, on vous prépare, et puis on vous dit, ben non, on peut pas. Et l'urgence sera demain. Et puis non, c'est pas demain, ce sera après-demain. Et puis on vous opère, ah ben il y avait une embolie pulmonaire.
Donc il y a une dégradation pour le patient.
Et quand on regarde les patientes écrites, comment ça se fait, etc. Moi je raconte une histoire qui est arrivée à une ancienne médecin de l'hôpital. Ben on fait l'investigation, on dit non, il n'y a eu aucune faute. Il y a pas d'autre, on a des moyens limités. Arrivent des urgences, et ben vous êtes déprogrammé. Alors quand vous allez être opéré, que trois fois on vous laisse à jeun, puis on vous dit c'est pas vrai, vous dites la qualité des soins n'est pas dégradée, ben elle est quand même sortie, elle a été opérée. La gravité des soins est dégradée. Donc, inévitablement, il y a ça qui... Finalement, comme dit Julie, c'est les soins vitaux, l'urgence, quand on est à la bonne filière, ça fonctionne. La grève cardiaque, elle fonctionne, la grève de reins fonctionne. Mais les aléas, les incidents qu'il faut rattraper, on peut pas vivre indéfiniment au bord du gouffre avec ces incidents qui sont quand même une dégradation de la qualité.
Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué, professeur Grimaldi, c'est la question de la tarification à l'acte. Gérard Vincent, vous en pensez quoi de cette tarification à l'acte? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un système absurde qui pousse l'hôpital à faire de l'acte et donc à creuser le déficit de la sécu, finalement?
Oui, alors... comme tout système, il y a du bon et du moins bon. La tarification de l'activité, elle a quand même permis à l'hôpital public, il y a quelques années, de reconquérir des parts d'activité par rapport aux cliniques commerciales. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à agir. Après, on est maintenant arrivé au bout du système, il faut le modifier. Et les pouvoirs publics, malheureusement, le font pas suffisamment vite, malgré les sonnettes d'alarme qu'on en tire depuis quelques années. Il y a, comme le dit le professeur Guillemet, il y a des activités qu'on peut tarifier, des activités de chirurgicales, par exemple, courantes, et des activités qu'on ne peut pas tarifier. Les missions d'éducation, de prévention, des activités médicales où il n'y a pas d'acte derrière, doivent être financées autrement. Donc il faut modifier le système. Aucun système n'est parfait. La T2A a été une bonne chose pendant une certaine période, c'est devenu un système pervers. Donc il faut le modifier.
Michel Rosenblatt, vous, justement, en tant que directeur d'hôpital, vous poussez, du coup, à ce qu'on fasse des activités rentables pour équilibrer votre budget?
C'est le système qui y pousse.
Oui, c'est ça.
Lorsque la circulaire budgétaire est publiée en cours d'année, parce que le temps que les choses se mettent en place...
Vous n'avez pas votre budget en janvier?
Non, les EPRD de 2015 ne sont pas encore...
EPRD
en les états prévisionnels de recettes et de dépenses ne sont pas encore validés, ce sera peut-être début juillet. Donc on a déjà ce décalage. Ensuite, le fait est que les pouvoirs publics ont différents leviers. Et parfois, ils les utilisent de manière contradictoire. Là, en l'occurrence, on nous dit, effectivement, tous les ans, augmenter l'activité, et augmenter l'activité pour garder le même budget, pas pour obtenir des recettes supplémentaires, pour investir, pour recruter.
Mais ça, c'est absurde.
Augmenter l'activité pour garder la même chose, les mêmes ressources, parce que le tarif baisse. Alors après, c'est l'œuf et la poule. Le tarif baisse parce que l'activité augmente, et l'activité augmente, doit augmenter parce que le tarif baisse. Ça, évidemment, je le disais tout à l'heure, un problème de limite. Si on baisse le tarif de l'obstétrique et la ressource par accouchement, en disant vous ferez plus d'accouchements l'année prochaine, d'abord, il faut qu'il y ait des femmes enceintes. Sinon, sur le territoire, on n'en fera pas plus. Et ensuite, il faut que ce ne soit pas déjà plein. Parce que sinon, on en fera, là encore, pas plus. Et
plein, ça veut dire pas de lits disponibles.
Pour terminer là-dessus, effectivement, ensuite, l'autre levier, ou l'autre contradiction, c'est que on utilise le tarif pour essayer d'inciter à l'évolution de l'activité. C'est-à-dire, comme le disait le professeur Grimaldi, on va modifier le tarif, non pas en fonction de la réalité de ce que coûte l'acte ou la prise en charge, mais en fonction de la réorientation que l'on veut faire. Ça peut avoir du sens dans certains cas. Lorsqu'on opère des cataractes et qu'on le fait si trop souvent en hospitalisation par rapport aux indications, la Sécurité sociale, aujourd'hui, vous le rembourse au tarif de la journée, sans hospitalisation. Et donc, vous rentrez le matin, vous sortez le soir, si l'hôpital vous garde, il touchera la même chose que s'il ne vous garde pas. Mais ça a ses limites. Dans beaucoup d'autres activités, ça n'est pas aussi simple. Et de fait, on prétend finalement que, pour terminer sur cet exemple d'accouchement, on va moins rembourser la césarienne de telle manière que les hôpitaux fassent moins de césariennes et plus d'accouchements normaux. C'est absurde, c'est même insensé d'imaginer que l'obstétricien va faire plus ou moins de césariennes en fonction du tarif. Mais où va-t-on?
Et c'est même le contraire. On sait bien que c'est ce qui se passait un petit peu dans la clinique privée, honnêtement. Il y avait un petit peu trop de césariennes. Enfin,
l'effet pervers,
qui est un peu
cet exemple a été cité par la Cour des comptes. Et grosso modo, si effectivement on appliquait les règles économiques en tant que telles, pour compenser la perte du tarif de la césarienne, il faudrait en faire plus. Parce que même moins payé, ça reste plus payé que l'accouchement, et parce que vous avez le bloc, le personnel, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est
contradiction. Vous, directeur, vous êtes pris en sandwich entre un gouvernement, un système de tarification à l'acte, et des médecins qui vous disent votre système est absurde, c'est ça?
Je pense que dans l'hôpital, tout le monde fait partie de la tranche du milieu du sandwich. Mais la tranche tend à s'affiner.
Mais un certain nombre de médecins sont rentrés dans cette logique-là. Cette logique médecine business. Ils disent, par exemple, des chirurgiens, nous avons une activité rentable, nous voulons un retour sur la rentabilité.
Sur investissement.
Bon, c'est-à-dire que vous, c'est pas neutre de faire ça. C'est d'un coup, vous dites, en gros, ça amène plus ou moins à violer une certaine éthique médicale. L'éthique médicale, c'est le juste soin. Et comme on est dans un système solidaire, au moindre coût pour la collectivité. Cette règle-là, elle s'implique à tout professionnel de santé. Mais on met un système qui pousse à quelque chose de dangereux.
Mais alors, on fait quoi maintenant, professeur Grimaldi? Vous faites partie des signataires de cette pétition. Vous en êtes à plus de 600 signataires de médecins des hôpitaux publics qui disent l'hôpital est en crise, il faut faire quelque chose. Vous demandez quoi? Vous êtes d'accord pour une réforme?
Oui, bien sûr.
On n'arrête pas de se réformer.
On demande... D'abord, de revenir sur cette histoire de tarification d'activité qui contraint tout le monde dans un carcan. Autant vous avez une dotation, vous avez un budget. Vous dites, comment je fais avec mon budget? Au mieux, si la nation décide qu'il faut réduire le budget de la santé, la France dépense
pas mal
pour
la santé. Mais donc vous voulez plus du tout de T2A?
Non, si, il y a la tarif, c'est qu'elle soit utilisée pour ce pourquoi elle est faite. il y a des activités standardisées de gravité moyenne qui correspondent à un tarif. Une séance de dialyse, c'est tant. Bon, une cataracte ambulatoire standard ou une prothèse de hanche standard, c'est tant.
Sortir
mais dès que vous êtes
en
réanimation, dès que vous êtes dans la complexité, dès que vous êtes dans les choses de prévention, bon, là, vous êtes les personnes très âgées polypathologiques. Bon, vous n'êtes pas dans la tarification. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, on va multiplier, on va complexifier la tarification. On est passé de 710 groupes homogènes à 2500 et on complexifie, ce qui fait qu'on a une machine maintenant bureaucratique qui existe. On embauche des codeurs. Dans le service d'orthopédie de la Petite Salpêtrière, qui n'est pas un petit hôpital, il y a maintenant un codeur professionnel. L'activité a diminué, mais la rentabilité a augmenté grâce au codeur. Bon, où on va?
Est-ce qu'on soigne le patient avec
donc,
tout ça?
C'est ce premier point.
Deuxième point, vous demandez pas de suppression de lits, mais honnêtement, paraît qu'on a plus de lits en France que...
Non, on n'a pas plus de lits parce qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a des lits de patients chroniques, il y a des lits aigus. Les lits sont en France mal distribués. On a besoin d'un aval des urgences. Il n'est pas normal qu'un urgentiste mette 3 heures pour trouver un lit.
Parce que dans ce temps-là,
d'autant que nos lits sont occupés, parce qu'on nous dit par la T2A, il faut que tous les lits soient occupés. Donc, message encore contradictoire.
Donc, question des lits. Après...
Les lits doivent être à la fois en aval d'urgence et en soins de suite. Parce que il y a, à Paris, chaque jour, en gros, 800 patients qui ont fini leurs soins aigus, mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et qui ne trouvent pas de place dans des soins de suite. Donc, on maintient... Dans des
et ça coûte cher
aigus,
à la sécu.
Très cher. Bon, donc il faut réaménager. Bon. Il faut développer l'ambulatoire, mais pas seulement selon les tarifs. Faut, nous, par exemple, on n'a aucun tarif pour l'ambulatoire. Et quand j'ai dit au directeur, on pourrait faire des mises à l'insuline en ambulatoire à condition de l'organiser, il dit, attendez, c'est pas rentable, il n'est pas question. Interdit. Donc, il faut, dans un cadre de budget, donner une liberté aux professionnels pour s'adapter. Aujourd'hui, les chimiothérapies deviennent ambulatoires. Il y a des traitements qui étaient en injectables, complexes, qu'on faisait à l'hôpital de jour, qui maintenant peuvent être faits complètement en ambulatoire. Mais si vous dites j'ai plus de financement, alors vous menez des activités pour pouvoir un financement. Donc là, vous êtes dans l'absurdité. Donc il faut redonner aux professionnels avec les administratifs, hein, pour travailler ensemble sur des nouvelles pratiques qui correspondent au progrès de la médecine.
Et vous demandez, alors, dernier point, vous demandez aussi des meilleures conditions de travail, justement, des équipes.
Ça va en partie en de équipe. Pair. C'est les équipes. Le but de l'hôpital, c'est d'arrêter de dire que c'est les pôles de gestion. Ce qui crée un hôpital, ce sont des équipes de soins dans les structures où ils travaillent. C'est ça sur lequel repose l'hôpital. Et tout le reste doit être au service de ça. Alors, les équipes de soins ont des comptes à rendre. Mais c'est le reste, l'administration, la gestion est au service des équipes de soins.
Gérard Vincent, vous êtes d'accord avec toutes ces demandes? Vous pourriez la signer, cette pétition?
Oui, je suis d'accord. Je pourrais la signer. Bon, la fédération fait des propositions également, donc elle n'a pas signé, mais elle pourrait la signer sans difficulté. J'interviens sur le problème de la suppression des lits. On dit qu'en France, il y a trop de lits.
Oui.
Attention, il y a des périodes de l'année où on déborde complètement. Donc si on supprime des lits, on va encore plus déborder dans les périodes de crise sanitaire, épidémie de grippe, de bronchiolite, etc. Donc il ne faut surtout pas fermer des lits à l'hôpital public. C'est suicidaire pour la collectivité.
Mais alors on fait quoi du coup pour faire des économies? Vous proposez
Le gouvernement, il a pris ses décisions, il fait faire des économies, puisqu'avec un ONDAM, c'est-à-dire une progression des dépenses de nos recettes de 1,75% l'année prochaine, l'année suivante, il va falloir faire énormément d'économies.
Vous allez vous en sortir comment? Et qu'on comprenne, quel est votre rôle à vous dans tout ça? C'est quoi? C'est de faire du, entre guillemets, du lobbying auprès des pouvoirs publics pour dire attention à l'hôpital public?
La Fédération Hospitalière de France est un lobby d'intérêt général.
Oui,
on défend
ça.
Le service public, l'intérêt général. On défend pas les intérêts particuliers, on défend pas le bénéfice des hôpitaux, on défend l'intérêt général. Donc notre rôle, consiste à dire aux pouvoirs publics, attention, vous allez trop loin. Et je pense que les pouvoirs publics vont trop loin.
Et est-ce que vous êtes écouté ou vous offrez du mal?
De temps en temps, oui.
Professeur Grimaldi, après je référerai.
Un mot sur les bénéfices, pour dire des chiffres, c'est jamais des choses assez simples. Si en France, on prescrivait des génériques, des médicaments génériques, comme les Anglais, au tarif de l'Angleterre...
Parce que nos génériques sont chers.
Nos génériques sont deux fois plus chers que l'Angleterre. Et les médecins, en France, sont hostiles aux génériques. Alors si on prescrivait comme les Anglais, c'est 2 milliards. Bon, le coût des transports...
Voilà vos économies, on les retrouve, vos 3 milliards d'économies.
Sanitaires.
C'est 2 milliards par an qu'on économiserait?
Oui, par an.
Vous vous rendez compte, 6
le
milliards
Le coût des transports
2017.
Sanitaires en France ne cesse d'augmenter plus vite que le reste du budget de la santé. Bon, il suffit d'avoir l'expérience de prendre un taxi quand il vient de l'hôpital ou quand si vous le prenez à l'extérieur de l'hôpital. Vous verrez les différences
de
tarifs.
De prix.
C'est plus de 4 milliards. Bon, on a un système maintenant qui nous hérite de l'histoire, mais qui est un système mixte et donc d'une complexité extrême de gestion. Hein, on a 500 mutuelles. En plus de la Sécu, on a 18 agences de l'État. Tout ça, c'est, d'après les chiffres de l'OCDE, 7% des dépenses de santé, donc plus de 16 milliards. Et je compte pas la T2A, je compte pas tout ça. Bon,
il y a d'autres pistes d'économie.
Faudrait se poser des questions
sur
ça. Est-ce que chaque soin doit avoir une double gestion, l'une par ma mutuelle, l'autre par la Sécu?
Mais qu'est-ce que vous demandez, là? Faites partie de ceux qui demandent tout pris en charge par la Sécu?
Ben, non, qu'on sépare, en tout cas. Ce que prend la Sécu, c'est une chose. Hein, et elle devrait prendre les choses essentielles, indispensables, et les prendre beaucoup mieux qu'elle le fait.
Donc
et
à 100%.
Par contre, il y a un certain nombre de choses qui ne relèvent pas de la sécu. Vous voulez pas de générique, c'est votre droit, mais vous avez une mutuelle. Vous voulez des cures thermales, c'est votre droit, vous avez une mutuelle. Mm. Bon, il y a un certain nombre d'activités. Vous voulez l'homéopathie, ben, très bien, c'est une mutuelle, c'est pas la collectivité. Alors tout ça, ça fait, on me dit, mais c'est 150 millions, c'est 150 millions. Ben oui, à force de faire 100 millions plus 100 millions plus 200 millions, eh ben vous avez le personnel, le coût de
Gérard Vincent, c'est important de parler de ce coût des médicaments quand même.
Bien sûr. Bien sûr, mais les hôpitaux achètent de moins en moins cher, mais des molécules nouvelles aussi arrivent sur le marché qui coûtent de plus en plus cher.
On a l'exemple sur la TMLA.
Nous devons effectivement travailler pour développer l'utilisation des génériques, beaucoup plus que nous le faisons. Mais si je peux me permettre, on a un système compliqué, enfin, entre la sécurité sociale et les mutuelles, on a un système donc coûteux, forcément, et puis on a un système insuffisamment piloté et régulé. Je le disais tout à l'heure au début de l'émission, le fait qu'une partie de la médecine de ville ne soit pas vraiment à sa place et ne fasse pas ce qu'elle devrait faire, pousse l'hôpital à des dépenses qu'il ne devrait pas avoir.
Mais on fait comment pour que les médecins de ville fassent leur travail?
Il faut que les pouvoirs publics prennent leur responsabilité. Dans le projet de loi santé que fait voter la ministre aujourd'hui, il n'y a rien. Par exemple, il n'y a rien sur la régulation de l'installation des médecins sur le territoire. Les déserts médicaux, ils sont là. Il n'y a rien pour obliger, ce qui semble assez logique, qui sont payés par la collectivité, par la Sécu, indirectement.
Mais là, les médecins libéraux sont vent debout là-dessus.
Que les médecins participent à la permanence des soins. La nuit, ils vont où les patients? Les week-ends, ils vont à l'hôpital.
Aux urgences.
Ouais. Et heureusement qu'il y a l'hôpital.
Ouais. Ils vont aux urgences aussi, entre guillemets, parce que c'est gratuit.
Parce que c'est gratuit, et malheureusement, j'allais dire malheureusement, et parce que des Français se sont rendus compte qu'en allant à l'hôpital, il y avait non seulement le médecin, mais il y avait également le service de radio et le labo. Mmh. Et donc l'hôpital, les urgences des hôpitaux sont devenues des plateformes de santé intégrées.
Mmh. Parce qu'autrement, des délais pour avoir une IRM, absolument, une radio, sont considérables si c'est dans le public. Julie Pelletier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, justement, sur vos demandes aujourd'hui pour réformer cet hôpital public?
Je suis très proche de tout ce que vient de dire André. Je dirais juste une chose en plus, c'est que dans l'hôpital, effectivement, on a l'ambulatoire, et on a l'hospitalisation conventionnelle, et dans l'ambulatoire on a la consultation qui, entre guillemets, pour être rentable, doit durer 20 minutes. Donc imaginez le temps que vous avez, 20 minutes, c'est le temps de dire bonjour, de renouveler l'ordonnance, donc les consultations évidemment débordent, et donc il n'y a aucune organisation prévue pour des patients complexes qui nécessitent qu'on y accorde plus de temps. On a effectivement des hôpitaux de jour, mais pour qu'ils puissent être tarifés, où il faut faire au moins 3 ou 4 examens complémentaires dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Et donc,
mais que vous faites en termes de rentabilité
Qu'on peut être amené, qu'on ne fait pas en pratique, on se débrouille, mais je veux dire qu'on peut être amené à faire, et oui, il y a des structures qui fonctionnent comme ça, et il y aurait certainement besoin de structures de consultations complexifié, en gros un demi-hôpital de jour où il y a juste du temps de soignant qui soit donné, du temps infirmier, du temps soignant, du temps médical qui effectivement soit
et
pas...
Et vous du coup, si on parlait d'épuisement tout à l'heure, vous êtes épuisé, ça veut dire que justement, puisque vous pouvez pas faire des consultations de 20 minutes, et bien ça dure plus longtemps et du coup vous finissez plus tard le soir?
Je gère mon burn-out chronique, oui.
Ah, et non mais avec du coup un sentiment oui sérieusement d'épuisement, de burn-out, faire autre chose, je voudrais partir du coup de l'hôpital public.
Régulièrement, oui, 2-3 fois par an, j'ai des petites
je
me pose des questions,
partir.
Des petites crises, et puis je pars en vacances et ça va mieux. Donc je veux dire, je gère ça, mais je pense qu'on est tous à gérer ça. Quand vous regardez quand même sur tous les risques socio-professionnels, je pense qu'on est tous dans l'orange, mais de façon structurelle.
Et quand les syndicats de la PHP, de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, sont absolument contre la remise en cause des 35 heures, est-ce que là, il faudrait pas être un peu raisonnable? Mais je pourrais le dire aussi bien chez nous, à RFI.
C'est compliqué. En fait, vous avez des personnes qui ont une perte de sens de leur métier. Vous avez des personnes qui sont pas très bien payées. Vous avez des personnes, alors là, je vais parler de Paris, puisque je travaille à Paris, mais qui mettent parfois 2 heures à venir, puisque c'est
le logement coûte très cher dans Paris.
Le logement coûte très cher. On le voit, elles sont jeunes, ils sont jeunes, ils travaillent 2 ans, ils vivent dans un studio dans le 19e ou dans le 20e. Et puis voilà, puis ils fondent une famille, et là, ils vont habiter à Orléans. Il faut savoir qu'ils viennent d'Orléans travailler.
Ils ont envie de ces 35 heures pour pouvoir tenir le choc.
En tout cas, je veux dire, venir 6 jours sur 7 et passer 4 heures par jour dans les transports, qui le ferait, quoi? Dites-moi juste qui le ferait. J'ai pas la solution. Je pense qu'effectivement, on peut pas dire qu'il faut pas réorganiser les 35 heures parce que clairement, effectivement, ça pose des gros soucis. Les soignants ne parviennent pas vraiment à être à 35 heures, donc cumulent des RTT. Et donc, ça génère effectivement, en général, en fin d'année, des vacances qui sont données à la va-vite et donc un manque de personnel au lit des patients.
Mais il faut comprendre pourquoi les gens s'arc-boutent là-dessus.
Parce qu'en fait, on leur propose rien en retour.
À la fin de cette émission. Ouais. Michel Rosenblatt.
Un dernier mot très rapide. Effectivement, on a le sentiment qu'il y a une explosion de la complexité et que la régulation dont on parlait tout à l'heure est de plus en plus difficile. Globalement, Et ça se reporte évidemment au niveau de chaque structure, au niveau de chaque établissement.
Et vous, par exemple, en tant que directeur d'hôpital, vous n'avez aucune prise sur le prix des médicaments dans votre hôpital.
C'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à assurer mieux la coordination entre les différents secteurs. La ville, l'hôpital, le médico-social, personnes âgées. Chaque fois que l'on a une rupture de prise en charge, on a des surcoûts. Et c'est là que sont sans doute les sources d'économie, parce que pour le reste, Gérard Vincent l'a dit aussi, ce qui nous attend demain est rude.
Gérard Vincent, un mot de conclusion?
Il faut que l'hôpital tienne le choc, parce que je vois pas qui d'autre que l'hôpital peut assurer cette mission. Donc il faut absolument le préserver. Donc on a des efforts à faire, ça va sans dire, notamment en termes d'organisation, mais il faut que les pouvoirs publics se rendent compte du rôle de l'hôpital, le rôle d'amortisseur de crise de l'hôpital. Et c'est un cri d'alarme qu'on lance, parce que la situation risque de devenir explosive.
Mais on a l'impression que vous faites pas plus entendre que ce soit la gauche au pouvoir ou la droite, d'ailleurs.
Non, parce que les hommes politiques, d'abord, ont peur de l'hôpital. Ils ont peur de la médecine en général, ils ont peur de l'hôpital.
Ils voient que l'hôpital
dépense beaucoup, en pourcentage, c'est vrai. Et par contre, ils sont persuadés que c'est là qu'il faut faire les efforts. Et c'est pas forcément là qu'il faut faire. Enfin, il faut faire des efforts, mais c'est pas là qu'il faut taper de manière aveugle.
Professeur Grimaldi.
Non, mais la grande priorité du système de santé français, c'est de construire un service public de la médecine de proximité, en ville. Bon, qui ait les moyens de travailler, c'est la grande priorité. Or, la loi a complètement reculé sur cette question. Et moi, je pense que
l'hôpital... Mais à cause des médecins?
À cause des médecins, en partie, mais elle avait très peu avancé elle-même. Hein. C'était, je sais pas si vous vous rappelez le terme, proposer un service territorial de santé au public dont personne ne savait ce que c'était et qui était surtout pas accès, auquel le public n'avait pas accès. Et l'hôpital public, une de ses tâches maintenant, c'est d'aider à construire ce service de médecine de proximité avec les médecins libéraux qui sont d'accord, parce que tous ne sont pas sur la même position. C'est comme à l'hôpital. Hein. Nous sommes divers.
Merci beaucoup à tous les quatre. Au revoir à tous et à demain.